Monsieur Duss, ce qui ne va pas, c'est le planté de bâton. Le planté de bâton ne va pas du tout.
Le planté de bâton, ouais. Le planté, ouais, le bâton, ouais.
Les sportifs, ils peuvent se foutre de ma gueule s'ils veulent. S'ils veulent. Mm. Ça me gêne pas, mais moi, je me fous de la leur.
Bumpy.
Bonjour, bonsoir, vous écoutez l'épatant podcast Omnisport, le podcast qui parle du sport au passé et du passé à l'imparfait. 1966, pour la première fois dans l'histoire du ski, les championnats du monde se déroulent dans l'hémisphère sud et en plein mois d'août à Portillo au Chili, une station isolée située à 3000 mètres d'altitude et à quelques kilomètres de la frontière argentine. Lors de ces championnats du monde, la France règne en maître sur la compétition. Cocorico. 16 médailles sur les 24 attribuées, dont 6 en or. Jean-Claude Killy en descente et en combiné, Guy Perilla en slalom géant, Annie Famos en slalom et Marielle Guachel en slalom et en combiné. En descente femme, en revanche, c'est une Autrichienne qui va se distinguer en devançant la championne française de 70 centièmes. Il s'agit d'Erika Schinegger, jeune prodige du ski âgée de 18 ans. Erika Schinegger incarne l'espoir du ski autrichien, une des nations mères de la discipline. Elle fait partie des grandes favorites pour la Coupe du Monde de ski, mais surtout pour les Jeux Olympiques d'hiver qui auront lieu à Grenoble en 1968. Mais, coup de théâtre, durant l'hiver 1967, à l'occasion d'un test de féminité, Erika Schinegger va apprendre qu'elle est en fait un homme, ou plus exactement, une personne intersexuée. Une révélation qui aura raison de sa carrière, puisqu'elle est immédiatement exclue de toute compétition et devra même rendre sa médaille d'or à sa dauphine française en 1988. Ce mois-ci, dans EPO, on vous parle de ski alpin et de l'histoire incroyable d'Erika Schinegger. Et pour m'accompagner sur les pentes glissantes de ce combiné, j'ai l'honneur de recevoir mes fidèles compagnons, Younes.
Salut à tous.
Olivier.
Touchous.
Chloé.
Hello.
Et Sarah.
Bonsoir Mickaël.
Mais avant de se lancer sur la piste, on va écouter une petite archive.
Les gens m'ont fait un personnage qui n'est absolument pas le mien. Je ne suis pas plus garçon manqué que les autres. On a un sport qui est assez violent, donc on ne peut pas être... c'est Marie-Jeanne, hein, comme ça. Hein. Il n'y a pas d'histoire. Mais on descend à 80 à l'heure sous les pistes. On ne peut pas certainement se balader tout le temps en robe et puis ici tout rentrer, se faire les ongles et puis se coiffer sans arrêt alors qu'on porte des casques et tout. Mais de là à dire que je suis un garçon manqué qui joue qu'au football, qui pour un peu, en arrivant chez Charlot, lui aurait tapé sur le ventre en disant bonjour Charlot, alors ça c'est de la bêtise.
Est-ce que t'as type de garçon, Marielle, qui correspond à un idéal pour toi?
Oui,
et cordobesse.
Avec des cheveux gris?
Non.
Pourquoi le cordobesse?
Non, elle aime bien les vieux. Oui, elle aime bien les vieux.
Non, ça j'aime bien les vieux. Non, c'est pas ça. J'aime les types d'âge mûr, j'aime pas les gamins et je veux un homme qui me commande et pas un que je commande. Voilà la nuance.
Eh hey, ben voilà, prenez-en de la graine les gonzesses ici. Hey,
le cordobesse, il a de la chance. Hein.
Alors, est-ce que vous avez reconnu cette personne qui parle?
Oui, c'est Marielle.
Exactement.
Ouais.
C'est Marianne Guachel. Alors, je sais pas trop comment on dit. On s'excuse par avance sur la prononciation des noms.
De tous les noms, parce que je pense qu'on va faire n'importe quoi.
Voilà,
personne n'a fait d'allemand à l'école. Et surtout, donc, on peut écorcher certains noms. On est désolé.
Alors, on est surtout. Personne d'entre nous n'est spécialiste de ski. Et donc, du coup, on n'y connaît pas forcément grand-chose.
On n'y connaît rien d'ailleurs. C'est pour ça.
Alors, c'était une interview qui datait justement des championnats du monde de ski. 1966, hein, donc qui vont nous intéresser.
Oui, c'était donc l'une des concurrentes de Erika dont on va parler après.
Exactement.
La principale concurrente.
Bah, c'était sa dauphine, elle est arrivée deuxième sur l'épreuve.
Oui.
Je vais commencer par, en guise d'introduction, par un rapide tour de table, puisqu'on parle d'un sport dont on n'a encore jamais parlé dans EPO. Et alors, le ski, ça vous évoque quoi? Est-ce que vous aimez en faire? Est-ce que vous aimez regarder? Et je vais commencer par Sarah.
Moi, j'aime beaucoup, beaucoup le ski. J'en faisais beaucoup quand j'étais petite. J'ai eu ma troisième étoile assez jeune et j'ai même eu ensuite ma flèche de bronze. Après,
bravo.
J'ai quitté la compétition sur cet exploit.
sur une rupture des ligaments croisés, évidemment.
Non, j'adore ça. Je regrette de ne pas en faire plus. Après, je regarde assez peu. Je vais regarder au moment des JO, en fait. Mais en dehors des JO, je regarde. Enfin, je ne suis pas du tout les compétitions de ski. Par contre, je trouve ça assez impressionnant. On reviendra dessus tout à l'heure. Mais que ce soit la vitesse avec la descente ou la technique avec le slalom, je trouve que c'est assez impressionnant à regarder. Et je trouve que quelqu'un qui skie bien, c'est magnifique à regarder. Donc voilà, j'aime bien, j'aime ça le ski.
Olivier,
Alors moi, je suis pas magnifique à regarder quand je skie. Pas du tout. Je comprends pas le principe.
Alors que t'es quand même magnifique à regarder en général.
Ça, c'est une base.
Je comprends pas le principe de monter tout en haut pour ensuite descendre boire du vin chaud, alors que tu peux directement boire du vin chaud en fait en bas. En fait, j'ai commencé à faire du ski une fois. J'en ai fait qu'une fois dans ma vie et j'avais déjà 20 balais.
Ah oui.
C'est-à-dire
ah oui.
la moitié de l'âge de Younes. Et c'était une profonde injustice parce que je ne savais pas skier et j'ai pleuré dès le début parce que quand j'ai pris mes skis, il y avait une petite bosse pour monter, fallait, voilà, et je descendais.
Tu descendais à l'envers.
Je comprenais pas comment monter en marchant avec des skis. Et puis un jour, du coup, pendant une semaine, j'ai eu un moniteur de ski. Je l'appelais Paul en ski. Et j'étais avec une fille avec moi qui était plutôt très jolie. Ouais. Et du coup, qui était très nul en ski. Alors que moi, j'étais très laborieux. Enfin, j'essayais d'apprendre vraiment bien. Et lui n'avait Dieu que pour elle. Et tous mes efforts n'étaient jamais récompensés. Et du coup, je déteste le ski, que ce soit bien clair. Et en vrai, à regarder, sinon, effectivement, c'est plutôt cool. Je me suis surpris là, en préparant l'épisode, à bien apprécier le ski, surtout la descente, que je trouve très impressionnant.
Très esthétique. Chloé ?
Moi aussi, j'aime bien les vieux, j'aime pas les gamins. Ah, c'est pas du tout la question.
Donc, El Cordobès, s'il te plaît.
Je sais absolument pas qui c'est.
D'accord.
Ok, on commence là-dessus.
C'est le frère de Younes.
C'est pour ça que je le connais pas. J'étais pas née.
C'est un torero. Voilà.
Sinon.
C'est un taureau. Parce que Marianne était vraiment fumée tout à l'heure.
Sinon, ouais, moi, je suis allée jusqu'à l'Étoile d'Or. Mes parents m'ont initié au ski très très jeune. Sauf que moi, très vite, en fait, quand ils ont commencé à faire du snowboard, je voulais faire du snowboard. Et du coup, j'ai tout fait jusqu'à l'Étoile d'Or avec la mission de passer au snowboard. Et depuis, j'ai jamais refait de ski.
Ah non!
Mais sinon, à regarder, c'est chouette, mais c'est pas quelque chose que je vais regarder. Pareil, c'est le snowboard que j'aime bien regarder pendant les Jeux Olympiques, les choses comme ça. Quoi. D'accord. C'est trop chouette.
C'est vrai.
Ouais.
Ça te plaît.
Ça me plaît. Et le bruit aussi, tu sais, quand tu glisses et de la neige qui crie sous tes planches, moi je trouve ça
moi
chouette.
Ah,
c'est ouais, bien. Ouais, super.
Et je l'ai pas dit tout à l'heure. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que le vin chaud, la raclette et la tartiflette, c'est des gros gros points positifs du ski quand même.
Ouais, ça c'est vrai. Ouais.
Mais pas les combinaisons et les chaussures par contre.
Non. Ça c'est vrai aussi.
Qu'est-ce que tu penses des combinaisons et des chaussures, toi, Younes?
Eh ben moi j'aime pas.
T'aimes pas le ski?
Ben en fait j'en ai jamais fait.
Ah.
J'ai toujours cru par exemple que chamois d'or c'était un grade de, alors que c'était un fromage. Et la seule neige que je connais.
Très bon avec le pain complet d'ailleurs.
Oui, c'est ça. La seule neige que je connais c'est celle de Paris donc qui devient très vite
de la bouillie.
De la bouillie. Et voilà.
Donc, je connais pas que cette neige. Hein,
peut-être qu'on devrait se faire un week-end ski EPO comme ça on emmènera une
neige. Ça serait pas mal.
Week-end ski EPO, trois morts.
Et on pourra me bizuter.
Du vin chaud surtout.
Effectivement, vu mon âge, aujourd'hui, je ne me vois pas tenter l'expérience de monter sur des skis. Car la plupart de mes amis qui en font très souvent se sont tous fait les croisés. Ouais. Ou au minimum, en tout cas.
Ouais, ça me
fait
peur.
Et donc, je pense que quand tu es plus jeune, tu es plus casse-gueule. Et donc, tu y vas. Et là, je pense que pour moi, c'est interdit, à part peut-être de faire de la luge.
Mais tu peux faire avec les piou-piou. Tu t'inscris chez les piou-piou.
Non, même pas. Alors, tu vois, j'ai même peur de ça.
Sur les ligaments croisés, j'ai une mini anecdote, mais après, Mickaël, promis, tu pourras nous donner ton expérience du ski.
Oui, oui.
C'est
assez proche de celle de Younes. Je vais pas spoiler. Mais...
Ma maman s'est pété les ligaments croisés au ski.
Ah, merde.
Et genre, elle était à un mètre de la piste. Ils étaient en hors piste, mais vraiment, tu vois, à un mètre. Et en fait, comme mes parents sont des gens très légalistes, elle s'est traînée jusqu'à la piste avant que les secours arrivent pour pas se faire gronder d'être en hors piste.
Ah, c'est génial.
Je trouve ça hyper mignon comme histoire.
Elle a rampé jusqu'à la légalité.
Exactement.
Ah, c'est beau.
Voilà.
Je pense que c'était un peu. Alors, on peut l'interpréter comme on veut, mais je pense que c'était un peu une punition divine pour t'avoir interdit de regarder la finale de la Coupe du Monde 98.
Ah oui, ouais, finalement, je pense.
Non, jamais j'aurais souhaité ça.
La main de Dieu.
Tu as repris la parole, Sarah, mais je voulais reposer une question à Younes. Comment va Tweety?
Avec Tweety, bien. Il fait des œufs depuis quelques temps. Et en fait, on a découvert que Tweety.
C'était une personne intersexuée aussi.
N'était pas un intersexe, mais bien une femelle.
D'accord, ouais. Très bien. Alors, moi, mon expérience, comme je le disais, assez proche de celle de Younes, j'ai jamais skié non plus de ma vie. Ça vient d'une chose très simple, c'est que mes parents n'ont jamais skié et m'ont jamais emmené au ski.
Ouais, c'est partagé aussi. Tout à fait.
Bon, alors, moi, j'ai tendance à penser que c'est un petit peu un sport de classe et que du coup, c'est quand même très cher de partir en sport au ski.
Tu veux dire que c'est le golf de l'hiver?
C'est un petit peu ça.
En fait, à moins de vivre dans un endroit où tu peux faire du ski et là tout le monde peut en faire, bah en fait c'est une vérité, c'est un sport de. Enfin, si t'as pas d'argent, tu peux pas skier.
Oui, et je te laisse finir, Mickaël, mais moi, ce qui m'a surpris.
Non, tu me laisses pas finir, de fait.
Non, mais c'est le prix des forfaits.
Ouais, c'est hyper cher. Hyper cher.
Ouais, moi, je suis chez Bouygues, ça va. Hein.
Alors, en revanche, à regarder
dans le poste de télévision. Je trouve ça assez sympa au JO d'hiver. J'aime particulièrement le biathlon, moi, en fait. Je trouve être un très beau sport.
J'aime bien, oui,
ouais, j'adore le biathlon. Est-ce qu'on n'aime pas parce qu'il y a Fourcade?
Non, j'ai toujours adoré le biathlon. Je trouve que c'est vraiment un très très beau sport.
Moi, j'ai le cœur qui bat tellement fort quand il tire.
Tu peux le redire.
On prendra évidemment cette phrase hors contexte.
J'ai encore devoir éditer, je vais devoir faire du montage encore à cause
de toi. Je suis tellement d'accord avec toi, Sarah.
Mais tu vas pas t'y mettre non plus, Chloé, ça va.
Bah, les vieux.
Donc, j'aime bien regarder le ski. Effectivement, tout ce qui est alpin, on va revenir un petit peu sur toutes les définitions, les différences. C'est impressionnant également, ça va très vite. Et j'ai un peu peur qu'il se casse la gueule. Alors, avec Olivier, on a regardé des chutes les plus ridicules. Les plus impressionnantes. Non, oui. Où des mecs se cassent la gueule dès qu'ils sortent du bloc. C'est à mourir de rire.
C'est à mourir de rire. Je crois qu'on va vous mettre la vidéo parce qu'elle est vraiment très drôle. Je crois que c'est. Alors, je la connais pas, donc vous me corrigerez sur les réseaux sociaux. Marion Roland, peut-être, en tout cas, une française que dès les commentaires la présente comme eh oui, c'est la cinquième mondiale, elle va vraiment tout cartonner, c'est parti. Deux secondes après, elle se bûche.
Non, t'imagines comme c'est horrible.
En plus, on l'a vu, aujourd'hui, la France vient de perdre, désolé, contre le Pays de Galles, donc c'est vraiment la lose à la française.
Ouais. Quel dommage.
Mais on perd avec panache.
Ouais. On est français.
Eh oui. Alors, avant de rentrer un peu dans le vif de notre sujet, on va quand même parler un petit peu de ski en général et peut-être revenir un peu sur l'histoire du ski.
Bah oui.
Le ski, c'est très très vieux, Michael.
Ouais, alors ça, c'est vieux. Voilà.
Ça, c'est drôlement vieux. De vieux tout
alors, Younes a vécu la création du ski.
Oui, c'est vrai.
C'est quoi? C'est la préhistoire, c'est
non,
ça?
Non, oui, on était sur des silex à l'époque. Ouais.
Non, mais en fait, pendant longtemps, le ski n'a pas été un loisir, mais en fait, était une d'utilité. Et donc, il y avait même au temps de la préhistoire, on se déplaçait sur des skis pour notamment les chasseurs-cueilleurs pour aller faire leur petite Bretagne.
On aime bien les chasseurs-cueilleurs.
En fait, elle nous parle que c'était une fonction. Tu fais quoi, toi? Bah, je suis chasseur-cueilleur.
Et tu cotises?
Je cueille et je chasse, hein, vraiment.
Oh, bah, c'est une bonne situation, hein, chasseur-cueilleur.
En fait, les hommes étaient en général chasseurs-cueilleurs à l'époque. Quand ils étaient pas sédentaires.
Bon, bah voilà. Et donc, plus tard, au Moyen-Âge, il va y avoir une fonction qui est plutôt militaire, puisque les armées se dotent de compagnies de skieurs qui vont leur permettre d'explorer, etc. Voilà. Donc, il y a une petite histoire du ski avant qu'on s'amuse à descendre, à dévaler les pentes.
Donc,
quoi.
C'est bien plus vieux que ce qu'on imagine. Ouais.
Ah bah oui.
Ils ont trouvé des gravures rupestres et des skis fossilisés aussi.
Ah oui.
Incroyable. Ouais. Snowboard aussi.
Et sur les peintures rupestres, il y avait des tire-fesses et tout. Il y avait, il y avait des dessins de raclette.
Et t'avais les tarifs aussi.
Ici, Vinchot.
T'avais les tarifs des forfaits aussi à côté.
Ouais. Déjà, c'était très cher à l'époque.
Forfait mammouth, forfait ptérodactyle.
Il y a quand même une petite inflation depuis ces années-là.
Oui.
Mais en tout cas, j'ai du mal à imaginer moi un chevalier sur des skis.
Avec sa cotte de maille.
Avec sa cote de maille.
Mais parce que ça rouille, donc c'est compliqué en vrai.
Ah oui, c'est vrai.
Ah oui.
Ça doit être ça.
Alors effectivement, le ski devient un loisir plutôt au cours du 19e siècle.
Exactement. Et il y a un certain nombre de compétitions qui vont apparaître, surtout dans les pays du Nord. Alors là, vous allez me demander pourquoi dans les pays du Nord?
on se pose vraiment la question.
Pas du tout. Voilà. Bah parce que c'est là qu'il y a la montagne et la neige.
C'est là qu'il y a la neige, oui.
Et voilà. Donc voilà, Suède, Finlande, Norvège, dès les années 1880. Et puis on va avoir des premiers concours de ski en 1892 en Norvège, en 93 à Mürzschlag en Autriche.
On s'excuse encore. Hein.
C'est où, Sarah? C'est quoi?
Mürzschlag.
Ah oui, d'accord.
Schlag.
Et en Suède, ils ont même institué les Jeux nordiques qui vont avoir lieu tous les 4 ans entre 1901 et 1926.
Et oui, mais la première grande compétition de sport d'hiver a lieu en 1924. 1924 qui est une année très importante dans l'histoire du ski. Pourquoi ?
Parce que c'est la création de la FIS, la Fédération Internationale de Ski. Mais c'est surtout l'année de la première grande compétition internationale où le ski est mis à l'honneur, les premiers JO d'hiver de Chamonix. Oui. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Younes, il les regardait en direct.
Ah ouais, j'y étais.
Il était dans l'organisation.
Il les écoutait en direct à la radio.
Ah ouais, complètement, ouais. J'étais en transmission en direct. Et puis, ouais, effectivement, ouais, c'était un bon souvenir.
Alors, ça se passe plutôt en début d'année. Là, pour le coup, c'était du 25 janvier au 5 février. Et 16 pays qui y participent. Il y avait notamment des épreuves de hockey sur glace, du patinage de vitesse, de bobsleigh, de curling.
Il y avait déjà du curling.
Il y avait déjà du curling, ouais.
C'est vraiment le meilleur sport.
C'est fou. Ouais.
Patinage artistique, nanana. Mais seul le ski de fond et le ski. Le saut à ski, pardon, sont présents cette année-là.
Et oui, parce que le ski alpin, les épreuves de ski alpin ne sont pas encore reconnues. C'est peut-être le moment justement de venir un peu sur ces distinctions, notamment entre le ski nordique et le ski alpin.
Bah oui, parce que au départ, en fait, ce qui existe en premier, c'est le ski nordique, c'est-à-dire le ski de fond, le saut à ski, le combiné nordique, qui est une réunion des deux épreuves, mais aussi le biathlon qui va y être associé. Et en fait, c'est ça qui existe en premier et va décliner de ça le ski alpin, qui au début ne va pas du tout. Enfin, en début, le ski nordique est en fait la discipline reine et il va y avoir un peu un rejet, on dit non, le ski alpin ne doit pas rentrer au JO, etc. Il va falloir se battre un peu pour que le ski alpin soit reconnu au même titre que le ski nordique.
Oui, en fait, le ski nordique est un héritage un peu d'une notion pratique de la pratique du ski.
Exactement.
Après, on passe en mode loisir et ce mode loisir crée en fait une nouvelle compétition.
Oui, c'est vrai qu'à l'époque, dans le Nord, on rentrait beaucoup chez soi en saut à ski. Sur 3-4 km, hein,
Pour passer un col, comment tu fais?
C'est vrai, c'est ça.
Chérie, j'arrive.
Alors pourtant, le ski en 1924, lors des JO, le ski alpin était déjà très populaire grâce à un monsieur, un Britannique.
Arnold Lund, de lui dont monsieur tu veux qu'on te parle.
Exactement, c'est un monsieur très important.
Oui.
Et ben c'est même lui qui va organiser en fait les premières grandes compétitions de ski alpin, notamment en 1911 dans le cadre du challenge du Lord Robert Kandahar à Adelboden en Suisse. Alors, facile. Hein.
J'ai regardé.
C'est plus simple quand ça s'appelle le Red Bull Challenge.
Ah bah oui.
Robert Kandahar, c'est un général anglais qui s'est illustré en Inde au cours d'une marche entre Kaboul et Kandahar en 1880. Voilà, donc d'où le nom. Hein.
Voilà. Et puis,
c'est une compétition très importante. Hein.
Oui, ne montre pas du doigt comme ça.
Ne l'accuse pas comme ça. Et puis il va créer encore un certain nombre. Il va organiser d'autres compétitions, des slaloms, notamment en 1922 et en 1924, les premières épreuves de combiné, donc descente et slalom, qui sont courues en Suisse. On reviendra un peu tout à l'heure. Si vous ne voyez pas bien la différence entre tout ça, on y reviendra.
Juste faire une petite parenthèse. Au tout début, la première descente, les premières descentes, en fait, aujourd'hui, quand on regarde une descente, le tracé est marqué. En fait, hein, y a une piste qui est délimitée par deux lignes bleues. Et puis, il y a même des grandes portes, quand même, pour qu'on puisse pas se planter. À l'époque, il n'y avait rien du tout. Et c'était aux skieurs de déterminer la meilleure trajectoire. Et en fait, en général, le gagnant, c'était le seul qui se cassait pas la gueule. Quoi. C'est très technique.
Celui qui finissait, en fait, va gagner. Quoi.
Et surtout, il y avait parfois des compétitions où, en fait, tout le monde partait en ligne comme une course d'athlétisme. On partait tous en même temps.
C'est une bonne idée, ça.
Alors qu'aujourd'hui, c'est chacun son tour. Pour les morts, c'est mieux. C'est toujours plus pratique.
Il y avait un taux d'avalanche à l'époque.
On était plus en mode rallye qu'en mode. D'accord, ok.
Ouais. Alors, à l'époque, les compétitions, les descentes étaient mixtes. C'est qu'en 1928,
c'est intéressant.
Qui vont vraiment départager les deux catégories. Mais à l'époque, c'était mixte. Et c'était pas rare de voir des femmes
gagner.
Ou, par exemple, en 1929, mademoiselle Dee Elliott, et Sale Baker devancent 45 coureurs hommes.
Elles étaient
entraînées par Arnold Lund, lui-même.
Donc quoi à l'époque il fallait pour faire du ski viser le lune.
Fallait l'avoir avec soi.
Oui, alors avec cette chanson, ça fait plusieurs fois que tu
que ça revient.
Ben te représente
dans ton cœur.
Alors on va faire
le moment, pardon, oui, t'allais le dire en fait.
Oui, de parler de chaque catégorie du ski alpin.
Oh là là.
Et vas-y Olivier, je te laisse.
Eh bien il y a plusieurs disciplines
je vais me faire un vin chaud, ça vous
dérange. Ouais, qui sont venus au fil du temps petit à petit à chaque fois dans les différentes compétitions.
Oui.
La première et la plus connue, on va dire, c'est celle dont on parle et dont on va parler.
L'épreuve reine.
L'épreuve reine, la descente, c'est vraiment la plus rapide. Hein, elle combine la vitesse et la maîtrise technique. Donc on a quand même des pointes à 140, 150 km/h. Donc c'est pas. Et des dénivelés. Alors ça, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça ultra impressionnant. Entre 8000 et 1100 mètres.
800 mètres.
Non, ça, c'est du saut en parachute, ça, tu confonds.
Entre 14 milliards de kilomètres.
17 années-lumière de dénivelé.
Alors, 8000 mètres, c'est moi quand je tourne ma ski. Entre 800 et 1100 mètres, ouais. Donc,
c'est aussi la plus dangereuse,
Enfin,
d'un point de vue
après, moi, je reste dans le ski nordique. Le voisin, le saut à ski, pour moi,
c'est impressionnant
aussi, quand même. Mais là, on est dans le ski alpin.
Ouais.
C'est vraiment la plus dangereuse parce que c'est la plus rapide. Et d'ailleurs, dans notre petit bêtisier, c'était vraiment très impressionnant, les chutes, en vrai. Qu'on a
ça
vu
fait peur.
Mais oui, il y a déjà eu d'ailleurs des décès parce que, forcément, se croûter à 140 km/h, Oui. C'est assez compliqué quand même. Mais d'ailleurs, mais moi, c'est très impressionnant à regarder.
C'est pas forcément celle que je préfère regarder. Je préfère largement le slalom.
Le slalom, ouais. qui est une épreuve beaucoup plus technique, où en gros, bah, il y a des petits bâtons, il faut passer entre les petits bâtons.
Et voilà, en fait, il y a des changements de direction, des changements de
quart. Impressionnant. Changement de quart.
Je crois qu'on appelle ça
droite gauche, droite gauche, droite gauche. C'est toi la porte, qu'est-ce qu'il y a?
Bernard la porte.
Continue.
Te laisse pas décontenancer.
Il y a le slalom géant, donc c'est un peu le même principe.
Qui apparaît
sauf que
après le
grand,
slalom. Ouais.
Mais les
sauf
plus
que c'est plus grand. Les portes sont plus grandes. Ça se rapproche un peu de la descente et un peu du slalom.
C'est
un peu entre les deux. Il y a ensuite le super G.
Mais ça arrive plus tard, hein, le slalom géant. Le grand slalom.
Ça apparaît en 50.
Le grand slalom. Oui, ça apparaît en 1950, tout à fait. Ensuite, nous avons le super G qui est.
Qui mélange les deux.
Qui est un petit peu un mélange, qui se rapproche. C'est un peu un compromis entre le slalom géant et la descente, on va dire. Voilà. Puis le combiné, qui est en fait une épreuve de descente et une épreuve de slalom.
Et
le meilleur. Voilà. Okay. Avant, on en faisait, je crois, une un jour, l'autre le jour d'après. Maintenant, je crois qu'on combine les deux le même jour. C'est devenu le super combiné d'ailleurs.
Ouais, c'est une discipline à part entière.
Voilà.
D'accord.
Et moi, il y a une épreuve que je trouvais assez cool qui est apparue il y a très peu de temps, en 2005, qui s'appelle le Team Event. Donc, c'est un slalom mixte, en fait. Il n'y a pas beaucoup de sports
mixtes. Mixte. On fera le redire d'ailleurs tout à l'heure.
Par équipe, où là, les deux concurrents s'élancent côte à côte et font leur descente, enfin leur slalom, en même temps. Et donc, c'est rigolo à voir parce qu'on voit qui est premier, qui est deuxième.
Il y a notamment le biathlon qui est mixte.
Oui, et d'ailleurs,
mixte aussi.
D'accord.
Je crois qu'on a été champion, enfin, on a gagné, nous les Français. Le team event, il n'y a pas si longtemps que ça. On en a entendu un petit peu.
Et moi, je rajouterais une dernière discipline parce que c'est une discipline un peu stylée.
Ah oui, c'est vrai.
C'est le ski freestyle qui est là plus dans le sport extrême où on va faire des figures. Ça a été créé dans les années 90 et on fait des figures sur des structures, soit en neige, soit en métal et on se la pète à mort.
Et moi, j'ai un souvenir d'un Français qui descendait des bosses.
Et qui se cassait la gueule.
Oui, exactement. Non, mais en fait, c'était un truc assez impressionnant et c'était une descente à bosses. Et je me souviens.
Bah, oui, après, il y a la descente à bosses.
C'est le nom de la catégorie.
La fameuse descente à boss.
La fameuse descente à boss. À boss, voilà, ouais.
Et bah c'est aux Jeux Olympiques, ça. Ah, il est champion de descente à boss.
Alors, peut-être un petit point sur les différentes compétitions. C'est un petit peu compliqué aussi.
Ouais. C'est un peu compliqué parce qu'en gros, il y a des compétitions donc, qu'on peut appeler. Enfin, moi, je vais parler de la Coupe du Monde et des championnats du monde.
Oui,
après, vous pourrez compléter. La Coupe du Monde de ski alpin, elle est sur l'année, en fait. Oui. C'est au.
Parce qu'en fait, justement, juste, je te coupe, parce qu'elle a été créée justement parce qu'il y avait plein de petites épreuves sur toute l'année. Et donc, finalement, il y avait un gagnant à chaque fois. Mais si vous voulez, il y a une forme de coup du sort quand même sur une épreuve de ski. Quand on dit il y en a des grandes championnes qui se pètent la gueule à la première seconde, il y a quelque chose qui peut être un peu de l'ordre de l'injuste. Et donc, d'avoir créé cette Coupe du Monde qui se passe sur toute l'année, ça permet d'avoir un classement et un championnat. Et ça permet à quelqu'un de très bon d'avoir le droit à une erreur et de quand même être champion à la fin de l'année.
Oui, parce que les conditions extérieures influent énormément sur la performance, ouais.
Donc ça, c'est la Coupe du Monde de ski alpin, ne pas confondre avec les championnats du monde qui existent depuis 1931, encore grâce à Monsieur Lune.
Oui.
Ça me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et encore.
Allez,
donc,
on arrête.
Une compétition qui existe depuis 1931, c'est ce qui va nous intéresser. C'est là où Erika Tschinegger a gagné. Ils sont organisés depuis 1985, les années impaires.
Ouais.
Voilà.
Okay. Donc en théorie, si mes calculs sont bons, tous les deux ans.
Attends, laisse-moi réfléchir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, là on est en 2019. Il va y voir là, d'ailleurs, non?
Peut-être.
Bah, oui, certainement, plus
sûrement.
Une année impaire.
Oui,
c'était peut-être en début.
C'est bien de ne pas avoir cette information. Pour
c'est très bien, on est très sérieux.
Et bien évidemment, les JO d'hiver.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Les JO d'hiver, oui.
Non, mais c'est ça, c'est vrai que c'est là, en fait, quand les gens regardent vraiment le ski. En tout cas, c'est là où c'est une des disciplines reines et qu'on s'y intéresse
en réalité,
au grand public.
La médiatisation, c'est le seul moyen, en tout cas pour moi, de m'intéresser à.
Bah, moi, c'est le seul moment où je m'y intéresse.
Et
aussi
effectivement, la Coupe du Monde ou les championnats du monde passent un peu à côté du grand public.
Les JO d'hiver qui ont été donc organisés à Chamonix, on l'a dit. En 1924, qui n'étaient pas appelés JO d'hiver à ce moment-là, ils ont été appelés JO d'hiver, premier JO d'hiver, rétrospectivement en fait, en 1925.
Ah, okay.
Ça s'appelait, je ne sais plus comment ça s'appelait.
J'aimerais que tu trouves comment ça s'appelle.
Ça s'appelait la Semaine internationale du sport d'hiver,
figure-toi.
Ah oui.
Eh ben, bon, tu vois, je trouve que ça avait plus de classe.
Ah oui, ça avait de la gueule.
Ça porte bien son nom, moi.
C'était vraiment court et tout, c'était vraiment pratique pour mettre.
Oui, sur des t-shirts.
Sur des t-shirts.
Donc une compétition qui a lieu tous les 4 ans, oui. En même temps, la même année, pendant très longtemps, jusqu'en 92, je crois, vérifié. La même année que les JO d'été.
Oui. Voilà, et maintenant c'est décalé. Ce qui est bien, ça nous fait plus de plaisir. Exactement. Plus longtemps et ça on aime.
Et c'est plus d'argent pour la télévision.
Alors, je crois que le ski alpin intègre les JO d'hiver en 1936, je crois. Je sais pas. 36, 38, tous les 4 ans, il faudrait faire le calcul.
Mais... j'ai... Bah alors, je sais pas, peut-être que je sors la calculette et puis j'arrive dans une
demi-heure. Non, les auditeurs vont le faire, on va vous laisser compter en commentaire.
Non, mais le ski alpin est reconnu comme une discipline, est intégré dans les compétitions de ski qu'à partir de... Enfin, la Fédération Internationale de Ski, la FIS, l'intègre à partir de 1931. Grâce à, en fait, au militantisme, j'ai envie de dire, de Arnold Lund, d'ailleurs. Oui. C'est toujours lui, finalement.
Exactement, hein, c'est ce que tu dis. En fait, Arnold Lund s'est battu pour que le ski alpin soit reconnu au même titre que le ski nordique. On va finir par lui autoriser d'avoir un championnat du monde donc, en 31. Et ensuite, enfin, le CIO va dire d'accord pour qu'en 1936, ils soient intégrés au JO d'hiver.
36 ! J'avais raison.
Yes.
Bravo, Michael.
Bravo.
Culture générale.
Un petit mot sur les trois pays les plus récompensés de l'histoire des championnats du monde.
Ah, mais je t'en prie, oui.
Ah, bah oui, avec grand plaisir.
Ah, bah le premier à votre avis. Ah,
bah, moi je le sais, on l'a tué.
Moi je le sais aussi, c'est marqué sur les notes.
Tahiti, figurez-vous. Ah non, pas l'Autriche. L'Autriche avec quand même, je crois, 275 médailles, donc 92 titres. Je dis je crois alors que c'est juste devant mes yeux.
C'est quand même impressionnant pour un animal qui garde la tête dans la terre comme ça.
C'est vrai qu'on pourrait croire comme ça que sur la neige, je serais moins à l'aise, mais...
Non. Tu m'excuserais.
Oui. Ensuite, nous avons la Suisse, évidemment. Oui. Et Cocorico, ton fameux Cocorico.
Cocorico.
La France.
Et oui. Bah oui.
On n'est pas si mauvais.
Et, oui. Bah non.
Et pour les athlètes les plus titrés au niveau masculin, nous avons Tony Saylor et Marcel Hirscher. Alors Marcel Hirscher, j'ai vu une vidéo de lui en train de descendre, il va effectivement très très vite. Hein,
plus que Younes, hein, mon ami.
Ouais, qui ont 7 médailles d'or.
Ça dépend sur le ventre, je vais très vite.
le mec, il arrive.
Younes, c'est une loutre en fait.
Il arrive à la fin de la descente, c'est un salami, le mec il est brûlé au 3ème degré.
Horrible.
Compétition internationale de ventriglisse. Et je finis quand même sur la femme, c'est dans les années 30.
Sur la femme.
Sur
la femme.
Et c'est Christel Kranz qui a quand même 12 titres et 15 podiums, oui. Hein, la bougre.
C'est pas
et
mal.
Voilà. Et ça fait quand même maintenant quasiment 100 ans qu'elle détient ce record. Oui. C'est joli quand même.
Ah ouais, quand même. D'accord.
Oui. Et ben voilà.
Ah ouais, indéboulonnable.
Alors, ce qui nous amène du coup au championnat du monde de 1966, oui. Hein,
donc, Chili.
Qui ont lieu au Chili. Ouais. Voilà, première fois, comme je disais dans l'intro, que les championnats du monde ont lieu dans l'hémisphère sud.
Oui, à Portillo, qui est une très jolie station qui se trouve à 2870 mètres d'altitude sur les bords de la Laguna del Inca.
Mais t'y es allé pour savoir ?
Waouh !
Comment tu sais qu'elle est jolie ?
Alors, parce que j'ai vu des photos et j'ai trouvé les photos très jolies. Parce que moi, j'ai habité Vierzon et quand tu vois les photos de Vierzon, bah,
c'est un peu moins joli.
Oui, voilà.
Je comprends.
Alors, comme je disais, la France fait un très beau, très très beau parcours.
Cocorico.
Oui.
Ouais, ils remportent une grande majorité. J'ai regardé le classement, ils sont devant largement. Mais effectivement, excusez-moi. En descente femme, j'hésitais avec le slalom.
C'est toi qui en descente la week-end.
Alors on va quand même préciser, on enregistre le lendemain du live EPO Culture 2000, 2 heures de perdu. La gaieté lyrique.
C'est important, t'as failli pas retrouver le nom des trois podcasts.
Ah, je suis content déjà. Et on est quand même dans un état assez.
Second.
Un état de forme pas énorme. Hein.
Oui, faut quand même second, le dire. C'est ça.
On est désolé.
Oui, pardonnez-nous.
Okay. Bravo.
Donc, épreuve de descente femme au championnat du monde 1966.
Ça va contrarier les ambitions des Françaises.
Exactement.
Voilà.
Bah, racontez-moi.
On raconte tout de suite la compétition.
Non, bah oui, on peut raconter la compétition, non ?
Ah.
D'accord. Eh bien, en fait, donc les Françaises qui sont assez favorites vont se voir sur la descente voler la médaille d'or par une Autrichienne, Erika Schneeger, qui va gagner par 79 centièmes d'avance sur donc la Française Marielle Guatschel et devant Annie Famos qui finit troisième. À l'époque, c'est vraiment la grande révélation, la grande championne. Et l'équipe, par exemple, va vraiment titrer une nouvelle étoile. Elle est imbattable, super championne. Donc, le monde s'enthousiasme pour Erika Schneeger, qui à l'époque est encore assez jeune. Hein, je crois qu'elle a 19 ans.
Oui.
Mmh. Ouais, moi, j'ai 18 ans.
18 ans. 18 ans.
Enfin, ah, oui. Oui, alors je sais pas en quel mois elle est née, mais effectivement, 18
ans. En juin. 17, oui. En juin. Oui. Voilà.
Oui, elle est née le 19 juin précisément.
Le 19 juin.
Oui, oui. Est-ce qu'on parle un peu d'Erika du coup ?
Bah oui, allons-y.
Et bah Erika, moi je vais dire Schinegger. Personne va être d'accord sur la prononciation, donc chacun choisit. Moi je choisis Schinegger. Erika Schinegger, née le 19 juin 1948 à Axdorf. En Carinthie. Du coup, moi, j'ai fait son petit calcul astrologique.
Ah.
Mais comme le site que j'utilise ne reconnaît pas la ville d'Axdorf, du coup, j'ai mis la ville la plus proche. Donc, c'est pas forcément carré-carré hein, ce que je vais raconter. Donc,
Bon, je crois qu'aucun de nous dit des trucs très carrés. Hein. De toute façon, tu peux y aller. Hein.
Alors, ce qui est très important à noter dans son petit thème astral, c'est qu'elle a Jupiter en Sagittaire. Ça veut dire qu'elle se passionne pour les jeux et les sports. Donc, déjà, elle était plutôt prédisposée à monter, bon, pas forcément sur des skis, mais en tout cas à faire de la compétition. Avec un Mercure en Cancer, elle s'adapte à toutes les situations qu'elle rencontre. Son raisonnement est juste, mais son Soleil en Gémeaux lui donne du discernement, de la pénétration. Elle a de la lucidité, de la réflexion, mais son esprit est changeant, diffus et pas mal de morcellement des énergies. Avec sa conjonction Soleil-Uranus, elle aime le changement, les réformes, elle est allergique à toute routine. Son opposition Jupiter-Uranus fait qu'elle subit de nombreuses tensions intérieures. Enfin, la conjonction Vénus-Uranus fait qu'il y a en elle un petit quelque chose qui attire le sexe opposé.
J'adore.
Voilà. Bravo. À côté de ça, elle intègre l'équipe junior de ski autrichienne à 15 ans, où oui. Elle rencontre Olga Pohl, qui devient l'une de ses meilleures amies et alliées, et qui sera championne olympique de descente en 68 à Grenoble.
Oui,
d'accord. Oui, et il faut dire...
Qui sait, peut-être à la place d'Erika.
Peut-être.
Peut-être, oui.
Et donc voilà, il faut dire que donc, c'est quelqu'un qui est complètement dévoué à ce sport. Enfin vraiment, c'est sa grande passion. Et que ça va aussi lui servir à échapper à beaucoup de remarques dès son plus jeune âge. Hein. Mm-hmm. On lui dit tout le temps, souvent, qu'elle a l'air trop masculine, des remarques assez dures. Et donc c'est quelque chose, quand on voit des interviews de Eric, il raconte que c'est des choses qui ont pu le blesser, et des vraies souffrances.
Oui.
Et que c'est aussi grâce au ski, finalement, que... jeune, elle a dépassé ses souffrances et qu'elle s'est accomplie dans ce sport-là.
Ouais. D'ailleurs, la délégation française lui a trouvé un petit surnom, hein, Younes, tu nous disais tout à l'heure.
Ah oui,
oui.
C'était quoi déjà?
C'est Antoine.
Ah oui, Antoine. Ouais.
Antoine, alors...
Elle avait un air de ressemblance selon la délégation française. Avec
Antoine de deux heures de perdu.
Antoine de deux heures de perdu. Non, pas du tout. Antoine le chanteur, celui qui avait fait la fortune à un moment donné de la publicité pour
Atoll.
Atoll, les opticiens.
Pour qui voilà. On fait aussi de la pub.
Pour qui on
mais
fait
on
de
est payé. Hein,
bien entendu.
Il faut en citer d'autres, là. Optique 2000.
C'est un chanteur des années 60.
Oui, on connaît Antoine.
Je crois pas.
Mais si.
Ma mère m'a dit Antoine, fais-toi couper les cheveux.
Alors, effectivement, elle devient. Vraiment l'espoir du ski autrichien. Bon, y a Pâle aussi, hein, qui est quand même très fort. L'Autriche, qui, comme on l'a dit, est quand même une mère patrie du ski. Hein.
Représente fort, fort. Hein.
Bah, oui. Et elle est clairement une des favorites, en tout cas pour les JO de 68 qui ont lieu.
À Grenoble,
effectivement.
Et le fait qu'elle soit aussi forte, ça va forcément, ça attise forcément des jalousies, voire des soupçons de triche, notamment parce que à l'époque, on lançait souvent les rumeurs sur les sportifs du bloc de l'Est qui pouvaient être dopés, etc.
Les fameuses nageuses estelles.
Exactement, qui sont trop grandes, pas assez féminines. Et Erika va à l'époque subir tous ces soupçons et voilà. C'est tout.
Elle allait parfois, elle descendait parfois plus vite que les hommes. Et il y a cette citation
classe
qu'on a notée très très classe de Karl Schranz. Je le dis comme ça parce que je l'apprécie pas vraiment. Vous allez voir pourquoi. Donc qui est médaillé de bronze ou même championnat du monde à Portillo et qui dit ouais, quelqu'un qui me bat, ça ne peut pas être une bonne femme, c'est pas possible.
Classe. Putain, mais ouais, il a raison.
Voilà,
c'est un vrai bonhomme, quoi.
Ouais, bah ouais.
Ah, tu le fais très bien.
Alors, elle gagne, je crois, les titres à la Coupe du Monde de 67.
Elle est deuxième du géant à la Coupe du Monde 67 et deuxième de descente en 66 à la compétition dont on a parlé tout à l'heure, Albert Kandar.
Alors, petit bâton dans les roues, elle passe un test de féminité.
C'est comme ça qu'on l'appelle à l'époque.
Et lors de l'hiver 1967, Erika est au centre d'entraînement de Cervinia entre la Suisse et l'Allemagne. Et elle est appelée par le médecin de la clinique d'Innsbruck qui demande à la voir rapidement. Elle est convoquée, elle quitte la station. Et elle se retrouve avec le président de la fédération de ski, le chef de la section de ski alpin, son entraîneur et des médecins qui ont une révélation à lui faire.
Where is Mona? She's long gone. Where is Mary? She's taken her alone. But they haven't put their mittens on, and there's 15 feet of pure white snow. Michael, where is Mark? Where is Matthew? Now it's getting dark. Oh, where is Joan? They're all out back under 15 feet of pure white snow. Would you please put down that telephone? Where are the 15 feet of pure white snow? I wave to my neighbor wave to me. But my neighbor is my enemy. I kept waving my arms till I could not see. Under 15 feet of pure white snow. Is there anybody out there, please? It's too quiet in here and I'm beginning to freeze. I got icicles hanging from my knees. Under 15 feet of pure white snow. Is there anybody here who feels this low? Under 15 feet of pure white snow. Raise your hands up to the sky.
And the Bad Seeds, 15 feet of pure white snow.
On aime.
Un thème au piano qui ressemble étrangement à Street Spirit de Radiohead. C'est une petite considération musicale. Alors, on en parlait juste avant la pause musicale. Effectivement, elle est convoquée pour qu'on lui annonce une nouvelle. Elle se retrouve donc devant presque une instance, un tribunal.
Ah là, c'est ouais. Voilà. Impressionnant, c'est que ouais.
Qui va lui révéler un verdict. Qu'est-ce que c'est ?
Composé d'ailleurs uniquement d'hommes, hein, bien sûr.
Évidemment. Et évidemment, pas d'avocat avec elle, ou en tout cas pas d'une personne pour la défendre, ou ne serait-ce que.
Exactement. Et on va lui annoncer. En fait, on va pas lui annoncer très clairement les choses. On va plus ou moins lui dire qu'elle a échoué au test de féminité, parce que cela peut bien vouloir dire, on se demande hein, quand même, un échec à un test de féminité. Et on lui dit qu'elle ne pourra pas participer au JO sans. Enfin voilà, on lui dit pas exactement ce que c'est, quelle est la question, pourquoi il y a un problème à ce moment-là. Et on lui dit, mais t'inquiète pas, on veut pas faire de vagues, etc. Donc on t'a écrit un petit communiqué de presse où tu annonces que tu vas te retirer de la compétition pour des raisons personnelles. Et là, pour elle, d'ailleurs, Eric le dira plus tard, c'est le monde s'écroule sous ses pieds, le ski, c'est toute sa vie. Et à l'époque, Erika, elle ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Et donc, elle va signer ce qu'on lui demande de signer.
C'est une gamine, c'est un traquenard.
Ouais, elle est très jeune encore.
Exactement.
Et puis, effectivement, elle n'a pas vraiment le choix, en fait.
Et elle va être exclue de la compétition, à la fois chez les femmes, et puis aussi, en fait, on verra plus tard, chez les hommes. Ouais. Donc pour elle, c'est un moment très dramatique sans aucune aide à ce moment-là, quoi.
Oui. Alors tu parles
comme quoi, faut lire tout le contrat avant de signer. Parce que moi, je me suis retrouvé abonné à Amazon comme ça pendant un an et avant de voir qu'ils m'avaient prélevé 5 euros par mois.
Et donc, tu t'es fait opérer à l'hôpital depuis?
Oui.
Les médecins sont venus te chercher.
Les médecins sont venus chercher, ils ont dit qu'il y avait rien à faire.
Il fallait que tu te retires de la compétition.
Oui. C'était mieux pour la fédération.
Et oui, effectivement, parce qu'elle va passer un petit séjour à l'hôpital. Hein, on va peut-être expliquer ça.
Oui.
Oui, même les médecins, ils n'arrivent pas du tout à lui expliquer en fait ce qui se passe.
Ouais.
Le docteur Hans. Alors c'est parti.
Marberger.
Oui.
À mon avis, c'est plutôt Marberger.
Ouais,
je pense.
Ouais, moi, je partais là-dessus.
Ouais, moi, j'aime bien le Marberger aussi. Ouais.
Je vais dire Pierre Berger. Il la prend sous son aile.
Ça raconte une autre histoire, mais ok, tu peux.
Je ne sais pas continuer. Mais c'est un neurologue qui l'accompagnera pendant toute sa transition. Et je pense que c'est lui qui va vraiment pouvoir lui expliquer quel est son souci. Quoi.
C'est lui qui lui annonce officiellement qu'en fait, elle possède des organes génitaux masculins.
Oui.
Et qui va lui dire une opération est possible si tu le souhaites. Voilà. Et donc, en fait, elle découvre à ce moment-là qu'elle est une personne ce qu'on appelle intersexuée.
Oui.
Alors, je ne sais pas si tu veux peut-être revenir sur les tests.
Ouais, on va juste revenir sur... Parce qu'on parle de test de féminité. C'est quand même un terme qui peut surprendre, c'est le moins qu'on puisse dire.
Qui peut heurter un peu.
Ouais, qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, en fait, à l'époque, en 1966, c'est là que les premiers tests de féminité vont apparaître pour les championnats d'Europe d'athlétisme. Et en fait, les médecins, tout simplement, c'est quand même assez violent, ils inspectaient le sexe des athlètes féminines.
Ils palpaient, quoi. Ouais.
Et décidaient, selon des critères préétablis, s'ils étaient conformes.
Ouais.
Voilà, donc je ne sais pas vraiment ce qu'il y a derrière ce terme conforme.
Ouais. C'est hyper humiliant, quoi. C'est un peu bétail, quoi.
Bah oui. Et d'ailleurs, ils sont très vite jugés humiliants et donc on va changer assez vite. Et en 67, et c'est ce test-là que va subir Erika, on remplace par un simple prélèvement de salive pour vérifier que les sportives ont bien deux chromosomes XX. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'au départ, c'est des tests qui sont pour les femmes. Hein. Les hommes.
Oui, on a pas de test de masculinité, quoi.
Exactement.
Évidemment, ouais. Ça s'appelle le test corpuscule de Barre.
Oh, voilà. C'est très beau. C'est très, très beau ce que tu dis.
Merci.
Et peut-être dire en un mot que ces tests de féminité, ils vont finir quand même par changer de nom. En 92, ils vont être rebaptisés contrôle de genre, ce qui est assez rien dire non plus, fait, sans rentrer trop dans ce débat. Et puis en 2000, on va enfin mettre fin à ces contrôles obligatoires qui restent quand même possibles.
Très tardif.
À la demande d'une équipe adverse.
Ouais, ok, c'est quand même fou. Quoi.
C'est encore
donc, il y en a encore pas mal.
Oui. Donc en fait, il y en a encore. Voilà.
Mais en fait, l'intersexualité, en fait, on peut en parler, qu'est-ce que c'est?
Ah bah oui, très bonne question, Younes.
Ah bah, Younes,
je vais te laisser le micro pour présenter. Effectivement, donc on se rend compte qu'effectivement, Erika est une personne
intersexuée,
tout ça. Alors qu'est-ce que c'est exactement?
C'est un terme biologique décrivant des personnes nées avec des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux définitions typiques de mâle et de femelle. C'est la définition selon l'ONU. Donc c'est un terme assez générique qui couvre un large éventail de conditions anatomiques sexuelles atypiques liées par leur signification sociale plutôt que par des causes ou des caractéristiques cliniques communes. Ça se voit pas du tout que je lis un texte parce que vraiment, j'ai pas du tout buté sur les mots.
Mais pour le dire en termes simples, après on n'est pas des spécialistes, donc dit des choses inexactes, n'hésitez pas.
Je vais être très honnête avec vous. Moi, j'ai appris l'existence des personnes intersexuées en préparant ce podcast, en fait.
Alors moi, je connaissais tout ce débat. Alors peut-être qu'on reviendra dessus après, mais en fait, le fait qu'il y a des hommes qui naissent pas clairement femmes ou hommes, et donc. Suite à ça, d'ailleurs, au départ, donc, ça va être vu d'une certaine manière comme une pathologie.
Oui.
Et après, il y a tout un mouvement politique quand même qui va se créer autour, qui va dire il faudrait qu'on reconnaisse une sorte de troisième sexe. Ouais. Il y a certains pays, d'ailleurs, aujourd'hui, où sur ton certificat de naissance, tu peux être femme ou homme ou autre genre.
Ou ne pas choisir.
Ou ne pas choisir.
Oui, oui. Ce qui n'est pas le cas en France. Hein.
Ce qui n'est pas le cas en France a été récemment justement rejeté par la Cour de cassation, je crois.
Oui.
Et on peut dire qu'en résumé...
C'est un peu la Cour de castration, finalement.
Ça dénonce.
Et bim. Et ouais, je fais de l'esprit, bien sûr.
Et donc, voilà. Et donc, ça recouvre, comme l'a dit Chloé, un champ très large en fait de situations qui ne sont pas toujours les mêmes.
Oui, parce que c'est soit au niveau chromosomique, soit anatomique, soit gonadique. Alors déjà, moi, je pensais que les gonades c'était vraiment un terme hyper rural, et en fait, non, c'est un terme scientifique.
C'est biologique, oui.
On a appris plein de choses en travaillant ce sujet. Bah moi, je suis ravie.
C'est pour des personnes quand même une réalité qui est quand même assez rare, mais quand même qui touche des millions de personnes.
Je trouvais ça intéressant. C'est quand même 1,7% de la population mondiale, donc c'est quand même énorme.
Mmh.
Et pour faire la comparaison, c'est à peu près le même pourcentage de personnes qui naissent rousses.
Ah oui.
Voilà. Et Olivier ne fera pas de blagues sur les roues.
Absolument pas, je n'ai rien à dire.
Non, mais en fait, c'est même une comparaison et un chiffre qui est cité par le site Amnesty International, où effectivement, il parle en fait de quelque chose d'aussi rare qu'une personne rousse, ce qui n'est pas forcément quelque chose à caractériser. Et pourtant, ces personnes naissent avec une caractéristique qui les, souvent, selon la culture, les humilie ou souvent les rejette. Oui. Et donc, finalement, finissent par être en marge de la société. Voilà.
Oui. Et pour dire oui, souvent d'ailleurs, les enfants qui naissent justement intersexués, on va souvent, pendant longtemps en fait, on va laisser les médecins et les parents choisir pour l'enfant s'il doit devenir et grandir en tant que sexe féminin ou sexe masculin. Et ça, c'est de plus en plus combattu et même... que c'est une forme de mutilation pour l'enfant en fait, de ne pas le laisser choisir et de lui imposer un sexe à la naissance, alors que de fait il naît dans quelque chose qui n'est pas binaire.
Et c'est pas que ça en fait, il y a surtout des résultats malheureux à ces opérations qui sont souvent en fait qui ont des conséquences un peu horribles. Bon, forcément parfois l'infertilité, très souvent même. Les douleurs chroniques, l'incontinence, etc. etc. Ouais, et donc effectivement de ne pas choisir en fait de son destin alors qu'on est un enfant. En plus de ça, subir en fait les conséquences d'une opération qui est souvent en fait plus une boucherie qu'autre chose, quoi.
Alors que cela devrait être un droit humain finalement.
Exactement.
Alors il y a un terme qui revient un peu spontanément, hein, qui est pas du tout exact, qui est l'hermaphrodisme en fait.
Oui.
Il y a un fantasme effectivement qui est mythologique, mais effectivement, Chloé.
Pardon. Vas-y, t'étais très bien parti.
C'est un fantasme mythologique et effectivement, moi je faisais aussi partie de ces gens qui faisaient cette confusion. Mmh. Et effectivement, en potassant le sujet. J'ai tout simplement appris énormément de choses et notamment sur ces définitions que l'on peut porter sur la communauté LGBT. J'ai appris aussi qu'il y avait un I à la fin, donc LGBTI pour intersexe.
Exactement. Voilà. Et pour dire, oui, peut-être l'hermaphrodisme. Donc hermaphrodite, c'est un personnage de la mythologie grecque qui a à la fois des organes sexuels mâles et femelles, tous deux pleinement fonctionnels, ce qui n'est pas du tout le cas des personnes intersexuées. Mmh. Mmh.
Très bien. Alors, voilà. Quid, qu'est-ce qu'il en est de notre amie Erika, exactement ?
Eh bien, alors quand lorsqu'il découvre son intersexualité, il choisit de vivre en tant qu'Eric. Déjà, comme il était déjà majeur à cette époque-là, il a pris la décision lui-même. Ça n'a pas été évident, je suppose, parce que vu que personne ne lui disait les choses clairement, ça a été compliqué. Visiblement, il allait encore aux toilettes pour dames, même après l'opération, un réflexe. Et ses amis, Olga Pal, du coup, son ancienne coéquipière, dit « J'ai dû faire le deuil d'Erika pour rencontrer Eric.
» C'était une époque où il devait y avoir très peu d'accompagnement aussi psychologique pour une personne. C'est quand même, tu as grandi 19 ans dans le cadre féminin et d'un coup, tu dois basculer dans un autre cadre. Ça doit être dur pour toi, mais je comprends aussi que pour les autres, il y a une forme d'adaptation qui est nécessaire.
Après, ça va à l'époque, mais j'imagine qu'aujourd'hui, on
ne pas sûr que ce soit très différent.
Je ne sais pas si vous avez, on est en 1960, enfin dans les années 60.
Non, mais c'est fou.
Il n'y a pas encore 66, donc ce n'est pas 68 non plus. Il n'y a pas encore la libération sexuelle. Le mec, enfin en tout cas Eric, bon, parce que maintenant on peut l'appeler Eric, se retrouve seul face à des tas d'hommes qui lui disent qu'en fait, il faut arrêter tout, qu'on va lui faire donc une opération, enfin qu'il peut choisir l'opération, mais en tout cas qu'il ne va plus rechausser de ski.
De ski,
Il sort de la clinique après 6 mois et 4 opérations. Il a pris une décision qui sera la décision la plus importante de sa vie et il est plutôt seul. Ouais. Donc, je ne sais pas si vous imaginez.
Oui, sachant en plus qu'une personne intersexe peut être hétérosexuelle, gay, lesbienne, bisexuelle, asexuelle ou s'identifier en tant que femme, homme ou même ne pas se définir.
Oui. Alors ça va assez loin quand même cette histoire sportivement parlant.
Oui.
Ça va assez loin parce qu'effectivement il est privé de compétition et puis il va même rendre sa victoire de 66. À son dauphin
sa dauphine. À Marielle Guatchel
exactement
il a plutôt classe d'ailleurs j'ai l'impression que
c'est lui qui le fait j'ai l'impression j'ai compris
en fait, dans un studio télé en Autriche ça va être mis un petit peu en scène mais c'est plutôt classe encore enfin j'ai l'impression que moi j'ai beaucoup aimé j'en ai peu lu. Mais de ce que j'ai vu, j'ai beaucoup aimé Eric.
Et malgré ça, il y a quand même des journaux qui titrent « Le tricheur rend sa médaille ». C'est considéré comme de la triche.
Ouais, c'est incroyable. C'est montrer aussi que même en 88, on n'a pas forcément bougé les mentalités. Et encore aujourd'hui, j'insiste, les mentalités sont encore... très arc-bouté sur on verra après avec
c'est assez compliqué il y a très peu de pays d'ailleurs c'est ce qu'on disait tout à l'heure qui reconnaissent une forme de sexe neutre. Il y a le Royaume-Uni, la Lettonie, le Pays-Bas, le Portugal et l'Allemagne. Et c'est assez intéressant, il y a l'Inde aussi. Comme quoi, ça peut être assez surprenant.
L'Inde, ça évolue un peu là-dessus. En tout cas, là-dessus, pas beaucoup sur le reste. Mais il y a aussi les États-Unis, hein, l'administration Trump, qui veulent faire sortir
c'est tout récent.
Ça a fuité un petit peu. Comme quoi, il faudra bientôt choisir entre masculin ou féminin. Et puis, basta, évidemment.
Donc, lui, il est toujours en avance sur l'actualité.
Il est toujours en avance, mais en arrière.
Et moi, pour rebondir sur ce que disait Eric, sur Eric, qui est un personnage assez sympathique. Moi, j'ai découvert en faisant mes recherches qu'il avait participé à Danse avec les Stars, la version autrichienne, et ça me l'a rendu encore plus sympathique.
Et
il débrouille plutôt pas mal du tout, j'ai trouvé. Voilà.
Ça a été extrêmement dur pour lui aussi, parce qu'aujourd'hui, il habite toujours en Autriche, dans une région de montagne, où il enseigne le ski.
Oui, une école de ski.
Ouais, et dans un petit village de montagne où les mentalités sont évidemment très conservatrices, et du coup, ça a été très très difficile pour lui. C'était un combat presque de rester, quoi.
Oui. De l'activisme quasiment.
Et je voulais juste rajouter un truc sur la fédération de ski internationale de ski, qui lui dit quand même que du coup il va perdre sa médaille puisqu'il a choisi d'être un homme, et que s'il voulait garder sa médaille, il fallait pas choisir, et que de toute façon c'était lui qui avait décidé d'arrêter.
Et d'ailleurs on va
c'est dingue,
c'est fou en fait. On va faire pression sur lui en disant parce que lui va dire peut-être que maintenant je peux concourir chez les hommes comme j'ai choisi d'être homme, et la fédération lui dit mais si tu fais ça faut rendre ta médaille par contre. Donc en fait il y a une forme de pression psychologique où la fédération va mettre en avant non mais c'est lui qui a choisi d'arrêter, de se retirer, etc.
C'est clairement un traquenard.
Voilà, c'est assez. Enfin, je trouve que c'est une histoire quand même assez violente et assez triste à ce moment-là quand même, puisque on lui enlève ce qu'il aime le plus dans la vie, quoi, le ski.
Alors, ce qui est triste également, c'est que c'est pas un cas isolé, Eric.
Non,
il y en a plusieurs.
Des cas très récents.
Qui ne sont pas forcément comme Eric. C'est-à-dire qui ont peut-être des problèmes. Donc, on appelle ça l'hyperandrogynie. Alors, l'hyperandrogynie, il y en a un cas célèbre dont on va parler un peu plus tard. Mais en gros, c'est un taux de testostérone qui est plus élevé que la moyenne chez la femme. En gros, chez l'homme, donc c'est entre 10 et 30 nanomoles par litre de sang. Si vous me demandez ce que c'est, les nanomoles, je ne vous répondrai pas.
Tu ne veux pas nous en montrer une?
Tu veux que je te montre ma nanomole?
On n'en a pas une dans ta poche.
Pour une femme, c'est entre 0,5 et 3 nanomoles par litre de sang. Pour une personne comme Caster Semenya, dont on va parler tout à l'heure, le taux passe de 8 à 9. Voilà, donc c'est énorme. Ouais. Donc il y a plusieurs sportifs qui ont été concernés par ça. Et la pionnière du genre, c'est... Alors là, attention. Stanislava Walaszkiewicz, qui est une sprinteuse polonaise, comme son nom l'indique.
On l'appelle Stan.
Alors là, on est en 1936. Et c'est Hélène Stephens, une sprinteuse américaine, qui bat le record du monde de 100 mètres à l'époque. C'est pendant les JO de Berlin. Et elle se voit, évidemment, vu qu'elle va très vite et qu'elle est un petit peu masculine, qualifiée d'homme déguisé en femme, etc. etc. Donc, on fait un test visuel sur elle.
Ah, voilà. Carrément.
Un test visuel?
Oui.
On décède à l'œil.
Alors, on va voir le short là. Ok, c'est bon, tu peux te rhabiller, merci. Donc, pas du tout humiliant là, encore une fois. Et c'est notamment, ce qui est drôle, c'est notamment la fédération polonaise qui va demander, parce que la polonaise, donc Stanislava Walaszkiewicz, finit deuxième. Oui. Et la fédération polonaise avait elle-même des doutes sur sa propre coureuse.
D'accord.
Et en fait, il se trouve que c'est cette sprinteuse-là qui deviendra, dans les années 80, Stella Walsh, qui ira vivre aux États-Unis, qui va malheureusement y mourir lors d'un cambriolage. Et lors de l'autopsie, on se rendra compte qu'en fait, elle avait des testicules intra-abdominaux. Donc là, on revient un peu, par contre, à Eric.
Oui, sur le même genre de cas.
Sur le même genre de cas. D'intersexualité, oui.
Et... Vas-y.
Ouais, non, vas-y, t'es bien.
Non, je voulais dire que sur, comme on a parlé, voilà, des taux de testostérone, etc., ce qui est assez intéressant à dire, c'est que pourquoi aujourd'hui on décide que c'est discriminant, et donc notamment Anaïs Beauhuon, sur laquelle on reviendra, qui est une sociologue qui travaille sur toutes ces questions-là, elle dit en fait pourquoi...
Juste pour préciser, elle est maître de conférence en STAPS à l'université Paris-Sud 11, pour l'identifier.
Voilà. Elle est très intéressante.
Et elle est très intéressante, et justement elle dit en fait...
Ouais, elle est spécialiste de ces questions. Là, hein.
Ouais. Et elle dit pourquoi est-ce qu'on décide qu'un taux de testostérone trop élevé chez une femme, ça fait qu'elle n'a pas le droit de concourir, alors qu'il y a d'autres caractéristiques biologiques, physiques qu'on autorise. Par exemple, un sportif plus grand, il va avoir des avantages.
Au basket
ou Martin Fourcade, pour revenir au beau Martin, qui a son cœur qui bat plus lentement que la moyenne.
Oui.
Et qui fait que ça l'aide beaucoup plus à se concentrer, bien notamment.
Pour le tir, surtout. Et à ne pas trembler, en fait, à ne pas bouger du tout.
Moi, j'ai mis que Simon Fourcade, il fait battre mon cœur plus vite.
Simon ou Martin?
C'est mignon, c'est
Simon.
Martin.
Non, non, moi je parle de Simon. Ah.
Très bien.
Merci.
On va alors, la couper du coup.
On va... Non, non, je vais la laisser.
On va arrêter de, alors... on va arrêter de tout couper. Hein,
il va faire 13 minutes l'épisode. Alors, en parlant de Anaïs Beauhuon, pardon, excusez-moi, j'ai écorché son nom comme
on
tous les autres.
Celle-là dans ce aussi.
En parlant d'Anaïs Beauhuon, j'ai un extrait justement qui est assez intéressant. Elle parle justement du caractère étriqué finalement des catégories et de l'intégration de ces sportifs dans le paysage sportif. Écoutez.
Alors, je pense qu'à l'heure actuelle, brouiller les catégories et défaire la bicatégorisation sexuée, c'est-à-dire prôner une mixité, n'est pas possible. Dans le sens où, pour des raisons culturelles, sociales, historiques, si on se plonge dans l'histoire de l'accession des femmes aux activités physiques et sportives, on se rend compte que les femmes ont énormément de retard. À l'heure actuelle, de ce fait, tous les records olympiques et même mondiaux dans toutes les disciplines sont masculins. Qu'est-ce qui constitue la beauté du sport finalement? Qu'est-ce qui éveille les foules? C'est l'incertitude du résultat. Donc si on brouille les catégories, si on met les femmes, si on demande aux femmes de concourir avec les hommes, l'incertitude du résultat, à mon sens, ce qui constitue le sport, va être mise en danger. Multiplier les catégories est un projet impossible. Si on fait une catégorie par hormone, on va devoir également faire une catégorie par taille pour toutes les disciplines. On va devoir faire une catégorie par élasticité musculaire, par taille de pied. Ça peut être un avantage en natation, etc. Donc pour moi, les Jeux Olympiques dureront peut-être 2 ans, ce qui est à l'heure actuelle impossible. Ce que moi je voudrais défendre à l'heure actuelle, c'est que ces femmes qui ont un avantage endogène naturel, à savoir qu'ils produisent plus de testostérone que la moyenne, puissent concourir dans la catégorie de leur choix. Elles se vivent en tant que femmes, elles se sont entraînées en tant que femmes, et elles n'ont pas envie d'être finalement niées dans leur identité sexuée propre, puisque c'est un petit peu ce qu'on leur dit. Vos performances et vos records sortent de la norme, de ce qu'on attend d'une femme, donc vous rentrez dans une autre catégorie.
Alors... Ils sont très beaux, ces petits bracelets.
Oui, t'as vu. Alors, effectivement, donc il est... Oui, vas-y.
Pardon, moi j'aimerais juste revenir sur ce qu'elle dit au sujet du retard des femmes au niveau du sport. Oui. Parce qu'en regardant en fait les dates au niveau des tests de féminité, le tout premier test, enfin je trouve que c'est une anecdote chouette, le tout premier test de féminité, c'était en 440 avant Jésus-Christ. Kallipateira s'infiltre en cachette aux Jeux Olympiques sous le déguisement d'un entraîneur pour voir gagner son fils, et les hommes inventent le premier test de genre sexuel afin de tenir les femmes à l'écart. Les sportifs concourent nus. Donc déjà, il y avait une volonté de les femmes, le sport, c'est pas compatible. Quoi.
Ça vous aurait plu la Coupe du Monde de rugby tout nu, hein?
De ouf.
Allez, filles. Hein. Alors, est-ce que vous voulez éventuellement revenir, notamment Olivier, peut-être sur d'autres cas encore
Oui, bah rapidement. Il y a Maria Patino qui est une sauteuse de haies espagnole qui, elle, pour le coup, est hyper androgyne, donc le fameux taux de testostérone plus élevé que la moyenne, qui, elle, donc va être suspendue. On va évidemment lui retirer les médailles, etc., de façon un peu injuste, enfin, ouais. Selon moi.
Humiliante aussi.
Elle va beaucoup écrire, elle va beaucoup faire de recherches pendant et après sa carrière. Et elle va...
Maria Patino, hein, toujours.
Ouais, oui. Elle confessera quelque chose que j'aime bien. Elle dira « Si je n'avais pas été une athlète, ma féminité n'aurait jamais été remise en question. Ce qui m'est arrivé, c'est comme être violée. Je savais que j'étais une femme. Ma différence génétique ne me conférait aucun avantage physique injuste. J'ai des seins et un vagin. Je n'ai jamais triché. Ouais. » Voilà. Et en l'occurrence, pour le coup, là, tout prouve que, en fait, c'est une femme.
Mmh. Oui. Voilà, dans son identité, en tout cas, déclarée, oui, complètement.
Ensuite, il y a une sprinteuse indienne, bon, qui n'était pas la reine du sprint, mais qui battait les records en Inde, qui s'appelle Duti Chand. Qui elle aussi était hyper androgyne, qui elle aussi s'est vue retirer toutes ses qualifications, notamment au jeu du Commonwealth pour lequel elle avait été qualifiée sans problème. Et moi, je l'aime beaucoup, elle, parce que du coup, en 2018, il y a eu la dépénalisation de l'homosexualité. En Inde. Et elle a fait son coming out et elle en est très fière. Voilà, je suis une chouette femme. Et ensuite, j'ai Eva Klobukowska. une coureuse polonaise qui pareil, alors là, à la suite d'un test de féminité, les médecins la déclarent souffrir d'une féminité insuffisante. Voilà.
Horrible.
Voilà. Une vraie pathologie. Hein.
Ah oui, voilà. Ça, on n'aime pas ça.
Et du coup, là, elle va évidemment se faire suspendre. On est encore en 67. Hein. Et c'est que dans les années 90, avec le changement politique en Europe de l'Est, qu'elle pourra être réhabilitée. Oui. Mais il faudra attendre un sacré paquet de temps.
Et c'est marrant parce que cette espèce de. Un phénomène qui est très courant, surtout en athlétisme, d'ultra-féminisation, on voit les coureuses très maquillées, qui portent des boucles d'oreilles, du rouge à lèvres. Ouais, ouais, ça arrive de plus en plus. Ouais, ouais. Et histoire comme si elles voulaient vraiment accentuer la féminité au-delà du côté masculin qui peut apparaître dans certaines disciplines, quoi.
C'est peut-être une réaction, effectivement.
Ouais, c'est bien possible que ce soit lié.
Sans l'interpréter, mais effectivement, c'est une observation, en fait. Après, il y a le look et le marketing des marques. Et comme oui, sport individuel, se démarquer, ça sert aussi à ça, le look. Voilà.
En tout cas, c'est vrai qu'on a vraiment cette idée. Donc, on l'a dit, que le sport est fondé sur la non-mixité. Après, pour la défense du sport en tant que tel, c'est qu'on a aussi une société aujourd'hui qui est très marquée, très genrée entre femmes et hommes, entre sexe féminin, sexe masculin, et qu'on n'a pas encore, même dans la société dans son entier, dépassé un peu cette binarité, pour l'instant en tout cas.
Oui, oui, les cas qu'Olivier vient de citer sont des loupes un peu de notre société, et grâce au sport qu'on les découvre, mais dans la société, effectivement, on a vu le chiffre
1,7%.
1,7% de la population mondiale est
intersexué
ou roux, donc
et vit ça dans une solitude, et souvent en fait avec des supplices commis déjà dans l'enfance par des chirurgiens indélicats.
On va revenir sur un cas emblématique, et c'est l'heure de l'antidoping.
Sur la liste des joueurs qui passaient au contrôle antidoping, donc il fallait faire la petite chose.
Chloé, je te laisse la parole.
Bonsoir.
Oui.
Alors, Mogadi Caster Semenya, née le 7 janvier 1991 à Pietersburg, est une athlète sud-africaine, spécialiste notamment du 800 mètres. Elle fait des débuts en 2008 au championnat du monde junior de Bydgoszcz. Je l'avais pas mal révisé celui-là, en Pologne. Je crois que c'est le seul que j'ai à peu près bien fait, et encore j'ai des doutes. Mais c'est en 2009, lors des championnats d'Afrique junior de bambou, qu'elle remporte la finale du 800 mètres en 1 minute, 56 secondes et 72 centièmes, améliorant le record national d'Afrique du Sud et réalisant la meilleure performance mondiale de l'année sur la distance. Cependant, comme pour Erika, son physique et sa voix grave soulèvent des interrogations, et elle devra passer un test de féminité quelques heures avant la finale des championnats du monde de Berlin, toujours en 2009, où elle remporte d'ailleurs la médaille d'or avec un temps d'1 minute, 55 secondes, 45 centièmes. Verdict, l'athlète est intersexuée avec une production inhabituelle de testostérone, un déficit en 5-alpha-réductase et un génotype XY. Alors, ouais, moi par contre, je suis allée rechercher un petit peu pour savoir de quoi je parlais. Du coup,
ça veut dire que vous avez fait du sale boulot, les autres. Vous avez compris ?
Ah bah bravo, ça balance, ça balance.
Non mais juste, le déficit en 5-alpha-réductase, en fait, le 5-alpha-réductase, c'est un métabolite, donc une substance organique, biologiquement actif, formée en premier lieu dans la prostate, les testicules, les follicules capillaires et la glande surrénale. Et le génotype X, la fameuse glande surrénale. Et le génotype XY, Sarah l'a un petit peu expliqué tout à l'heure. C'est quand une femme est censée avoir les deux chromosomes XX et un homme est censé avoir les chromosomes XY. Mmh. Donc, elle présente les deux.
Merci Michel Simès.
Je vous en prie. J'adore, ça m'a passionné. Du coup, les rapports médicaux indiquent que la jeune Sud-Africaine n'a pas d'ovaire, mais possède au contraire, comme les autres cas que tu as cités, Olivier, des testicules internes qui produisent de la testostérone, et l'avantage donc par rapport à ses concurrentes. Ça, c'est les rapports médicaux, hein. C'est pas du tout moi. C'est visiblement la testostérone, ça fait aller courir beaucoup plus vite. Donc, un porte-parole de l'IAAF.
Ce qui n'est pas prouvé, en fait, hein, même.
Absolument pas. L'Association internationale des fédérations d'athlétisme, Nick Davis, est très clair. Il s'agit d'un problème médical et non pas d'un cas de dopage où elle aurait triché délibérément. Les résultats de ces tests ne peuvent laisser supposer une quelconque entorse à la règle. Ils tendent en revanche à accréditer l'hypothèse selon laquelle Semenya bénéficierait d'un avantage médical indéniable sur ses rivales. Mais il n'y a pas d'annulation automatique des résultats dans un cas comme celui-là. Bah, c'est gentil, Sylvia.
Merci.
La rageuse, pardon, la française Élodie Guégan, finaliste de 800 mètres qui a couru aux côtés de Caster Semenya, n'hésite pas à parler sur le site de la Fédération française d'athlétisme de créatures, entre guillemets. Hein, déjà, ça fait
toujours très classe.
Tellement atroce.
Elle prend pas Guégan.
Non, non. Très bien, je valide. Je la cite. Sa musculature, son visage et son allure générale génèrent de nombreux doutes sur sa féminité et donc sa légitimité à courir.
Tu l'as fait bien.
C'est exactement comme ça, je pense qu'elle l'a dit en plus. Oui.
Je suis sûre que c'est ça. Pour savoir, pour information, Élodie Guégan, elle a été éliminée en demi-finale du championnat du monde de Berlin. Et depuis, elle est devenue gendarme.
Et trop mince.
Depuis, elle est devenue gendarme et elle fait du crossfit. Okay. J'ai fait du crossfit, donc je ne juge pas, mais.
Mais t'as été gendarme aussi.
Dans une autre vie, parce que là, j'ai pas encore la majorité, donc ils m'ont pas pris. Alors, la question, j'ai recité aussi Anaïs Boyon, parce que je trouve que cette femme est formidable. Doit-on disqualifier les athlètes exceptionnels parce qu'elles ne se conforment pas à la moyenne ou à la norme ? La véritable question se pose en réalité en ces termes. Comment légiférer sur un critère si subjectif que l'avantage physique ? Oui. Pendant un temps, on va se poser la question de disqualifier ou de donner également à l'athlète qui a terminé deuxième une médaille d'or. Je crois que finalement, ça s'est pas fait. En juillet 2010, elle est autorisée à reconcourir suite à une orchidectomie. Voilà. Donc déjà, je l'ai super bien dit. Ça n'a aucun rapport avec des jolies fleurs auxquelles mon papa est allergique. C'est en fait une ablation des testicules. Donc visiblement, elle aurait subi cette ablation des testicules. Elle entreprend alors de se préparer au championnat du monde 2011 et elle participe au deuxième meeting sur 800 mètres de la finale de Diamant 2011 où elle termine deuxième. Donc elle se reprend plutôt pas mal. Ensuite en Corée, à Daegu, elle se classe deuxième. Mais finalement elle récupère la médaille d'or suite aux révélations de dopage de la russe Maria Savinova. Oui. Ah, et pareil pour les JO de Londres 2012 où pareil elle est finie deuxième et elle récupère encore sa médaille d'or.
Ça pour le dopage on fait pas grand chose.
Non c'est non, vrai non, on est moins actifs. Mais... Ouais.
Son palmarès très rapidement, elle a deux médailles d'or aux JO, donc Berlin et Londres. 3 d'or et 1 de bronze en championnat du monde, 3 d'or et 1 de bronze en Ligue de Diamants, 2 d'or aux Jeux du Commonwealth.
Joli palmarès.
5 ouais. médailles d'or en championnat d'Afrique et 1 médaille d'or aux Jeux africains. Alors, 30 juin 2018, au meeting de Paris, elle remporte largement et calmement la compétition avec un temps d'1 minute 54 secondes 25 centièmes. Avec cette performance, elle devient la quatrième femme la plus rapide de l'histoire, battant à la fois la meilleure performance mondiale de l'année, le record de la Ligue de Diamants, le record du meeting et le record national d'Afrique du Sud, ainsi que son record personnel. Plus de 10 ans qu'on n'embête plus trop Caster. Alors pourquoi est-ce qu'on en a tous entendu parler il y a si peu de temps ? Parce qu'en avril 2018, l'IAAF sort un règlement concernant l'hyperandrogénie. Les athlètes concernés doivent donc prendre des médicaments pour faire baisser leur taux de testostérone. Un peu ironique pour des gens qui n'aiment pas trop le dopage de manière générale. Caster pose un recours contre ce règlement en février 2019 auprès du tribunal arbitral du sport, le TAS, soutenu par le gouvernement sud-africain et même le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies s'oppose à cette décision. Le TAS donne finalement raison à l'IAAF le 1er mai 2019.
Quelle bande de ripoux.
Et autorise sous condition le dosage de testostérone. L'athlète envisage donc de mettre un terme à sa carrière sportive, mais pas avant un dernier coup d'éclat. Ce sera la Doha Diamond League. Le 3 mai, elle remporte la course en 1 minute 54 secondes 99 centièmes. Record du meeting battu qu'elle détenait elle-même depuis 2016. Et le 7 mai, c'est officiellement la mise en place pour les athlètes concernés de la prise de médicaments pour faire baisser leur taux de testostérone. Dans son mémoire de défense devant le tribunal arbitral du sport, l'IAAF affirme que Semenya est biologiquement un homme.
Et c'est assez fort parce qu'elle elle a quand même subi une opération. Et après ça, elle va vraiment s'opposer à prendre ses médicaments et elle va dire « je ne triche pas, je ne prendrai pas de médicaments, je suis une athlète propre », qu'il s'occupe plutôt du dopage. Et elle dit « c'est plus qu'un jeu, plus que du sport, il s'agit de la dignité humaine, de fierté humaine, les gens me combattent, je ne les combats pas ». Donc c'est quand même assez fort et a priori la fin de l'histoire est quand même assez triste puisque en juillet 2019, elle a annoncé devoir renoncer à sa participation au championnat du monde d'athlétisme de septembre 2019.
Voilà. On est tout cœur avec elle parce que...
Exactement.
Merci, en tout cas, merci Chloé, merci à vous hein, pour cet épisode.
Ah bah merci quand même, Mickaël.
Pour finir sur une note positive, puisqu'on
oui,
a pas
c'est vrai que c'était un peu triste là.
Dire que quand même, Eric, il a connu les joies de la paternité.
Oui, voilà, oui,
il fait danse avec les stars.
Ouais.
Il est papa très heureux, je crois.
Il est prof de ski.
Prof de ski. Et donc, big up à lui.
Oui. Exactement.
Big up Eric.
Alors, on vous avait promis une petite surprise. Bon, on ne l'avait pas vraiment promis, mais pour finir sur une note un peu plus légère, on a retrouvé l'extrait de cette chute.
Ah,
alors, on est vraiment désolé pour cette athlète française, cette skieuse qui s'appelle, je ne sais plus d'ailleurs.
Marion ou Manon Roland,
je crois. Ouais, on est vraiment désolé. On prend un peu un plaisir coupable.
Big up Manon.
Voilà, oui. Écoutez,
moi, je me dis que je suis contente qu'on passe cet extrait, mais moi, ça me brise le cœur, ces athlètes qui s'entraînent pendant des années.
On explique, voilà. C'est très dur pour elle, mais elle s'est pas fait mal, je pense pas en tout cas, parce que c'est pas une chute qui est très spectaculaire. Elle est même, bon, il faut le dire, elle est un petit ridicule. Peu ridicule, mais alors écoutez, je crois que le plus humiliant, c'est même pas l'image, parce que elle tombe très vite après être partie des starting blocks, c'est surtout le commentaire du journaliste. Écoutez, je suis désolé, c'est horrible.
Au départ, voici Marion Roland, cinquième des derniers championnats du monde, 4 places dans les 10 premières en Coupe du Monde cette année. On a dit ici que Marion, eh bien, c'était sa piste, alors qu'Aurélie Revillet est en bas en train de soutenir sa copine. Allez Marion, les espoirs de la descente française sont sur ses épaules. Qu'elle a solide.
Oh ah non. Non. Non.
Eh ben qu'elle a pas solide du tout.
Non. Non.
Non, c'est pas possible.
Oh là là là.
Et ça, c'est quelque chose. Mais mon Dieu, une faute de car.
Et là, c'est horrible. Ça, je vais vous dire, c'est horrible. Puissant.
Moi j'ai mal.
C'est vrai que c'est horrible.
Moi j'ai mal.
Ah bah tout pas solide. Je ris
non, pas non, pas solide du tout.
Je ris nerveusement. Ça ne me fait pas rire.
Franchement, moi ça me brise le cœur.
Bah oui, c'est horrible parce qu'effectivement, c'est des années. Gens qui s'entraînent qui s'entraînent des heures et des heures par jour pour effectivement le jour J se planter. C'est un petit peu dommage. Alors, merci, on va se quitter. On va se quitter en musique sur cet épisode. Oui.
Oui. Trop tard.
Qu'est-ce que tu voulais dire?
Rien, je voulais dire un petit mot pour les réseaux sociaux, pour nous dire, bah, même si c'est la fin et qu'il n'y a plus personne qui nous écoute à ce moment de l'émission, que n'hésitez pas à nous suivre sur nos pages Facebook, Instagram, Twitter. N'hésitez pas à suivre les copains, même
pas
si vous
tweety.
Faites peut-être déjà, que ce soit Culture 2000, 2 heures de perdu, ou la page de Fréquence Moderne, l'association qui chaperonne tout ça. N'hésitez pas aussi, car ça marche, ne vous inquiétez pas, on va finir par les faire, à proposer éventuellement vos sujets.
Vos idées.
Il y en a des intéressants.
Il y en a même un qu'on va peut-être faire très prochainement. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer. Promis, on va finir par les prendre.
Alors, je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous remercie, vous, d'avoir été présents. Je me remercie, moi, d'être venu.
Ah oui, merci, Mickaël.
C'était bien ce petit stage chez Cora.
Oh là là, c'était super. Ah oui, oui, oui.
Le rayonnage.
Merci pour vos nombreuses blagues hein, lors de cet épisode, qui était quand même franchement très moyen, il faut le dire, sans moi. C'était un très très bon épisode. On se retrouve le mois prochain pour parler encore d'un thème sportif. Bye bye.
Au revoir.
Salut.
Salut.